RCF, les grands entretiens d'Éric Rouillet.
Grands entretiens avec un invité, Billy Heidi. Bonjour.
Bonjour Éric.
Vous faites suite au professeur Pierre Magnard, Grand Prix de philosophie de l'Académie française.
Quelle responsabilité.
Et de deux vignerons, Aubert Villaine, qui est gérant du domaine de la Romanée-Conti, et Jean-Yves Bizot, qui est un grand adepte de vos interprétations. Vous êtes un pianiste atypique, un pianiste discret, un pianiste silencieux, un pianiste qu'il faut aller chercher. Mais est-ce que ce côté pianiste de l'effacement fait de vous un pianiste de la tranquillité ?
Tranquillité en jouant ou tranquillité dans la vie ?
Entre deux jeux.
J'essaye que ça soit comme ça, mais on n'y arrive pas, en fait.
Pour préciser ma pensée, cette question qui est un peu taquine, pour démarrer, bien évidemment, à l'heure où, par exemple, je vais prendre Daniel Barenboim, qui, en quelques années, fait trois intégrales des sonates de Beethoven, qui a des projets musicaux toutes les 30 secondes, vous avez une période d'incubation particulièrement lente, Billy Heidi, parce que pour faire un disque, il vous faut une décennie pratiquement.
Pour apprendre des morceaux aussi, en fait, c'est pas que je les apprends lentement, mais je n'aime pas apprendre quelque chose et le jouer tout de suite. Il y a une maman d'élève qui m'a dit un jour, c'était comme un complément, que pour moi, je représentais, parce qu'elle assistait au cours de ce petit enfant, devenu polytechnicien maintenant, que j'étais l'éloge de la lenteur. Et j'ai adoré cette appellation. J'aime bien faire lentement les choses. Pas dans la vie de tous les jours. Je casse des assiettes sans arrêt, je cours, je marche très vite. Mais je ne peux pas trop supporter faire vite les choses parce que forcément, je ne les fais pas comme il faudrait les faire. Et là, j'entends même dans ce qui se passe aujourd'hui, mes élèves ou les grands pianistes de nos jours, qui ont des dons de vitesse d'apprentissage que je n'ai pas, que je n'aurai jamais, mais s'ils s'écoutent bien ce qu'ils font, ils vont regretter d'avoir fait telle chose à cette vitesse-là. Il y a nécessairement des choses qui nous échappent, puisque de toute manière, une vie entière n'est pas suffisante pour apprendre, ni le clavier bien tempéré, ni les sonates de Mozart. C'est sans arrêt, on est à la découverte de ce qu'on n'a pas pu voir, ce dont on n'a pas considéré les difficultés. C'est une très très longue. Après tout, on n'est pas les interprètes. Pour se mettre dans la peau de l'interprète, il faut beaucoup plus de temps que ce que l'interprète a mis pour écrire cette
Alors,
musique.
Vous êtes quand même dans une quête de la version définitive, quand vous parlez de cette lenteur.
Je fais des disques, j'aime autant que ça soit plus ou moins définitif pour moi. D'abord, je ne suis pas le pianiste qui va ni vouloir ni pouvoir faire une deuxième, une troisième, une quatrième version de choses. Oui, je sais que mon nom est lié à tous ces disques que j'ai faits à vie. Et je n'aimerais pas avoir moi-même des regrets en écoutant. Et j'ai peu de regrets en écoutant les disques, en fait.
Et alors, est-ce que c'est vraiment une bonne chose de ne pas avoir des regrets?
Mais j'en ai un peu, vous inquiétez pas.
Il y a quand même une place pour, et là on en parlait avec les vignerons, cette quête d'aller vers quelque chose, en sachant qu'on est quand même dans l'inachèvement, dans l'inaboutissement, que malgré tout...
Ça n'empêche pas.
Vous pouvez continuer.
Ça n'empêche pas. À ce moment-là, je ne les appellerai pas regrets. Par exemple, je peux entendre, même mes plutôt récentes barcaroles de forêt, ça date de 3 ans, 4 ans, j'écoute et je dis « Ah, je faisais ça, mais maintenant je vais les jouer bientôt en Allemagne et je joue un peu autrement. » Mais sans que ça soit quelque chose de regrettable. Ça évolue, ça s'améliore, j'espère, mais sans renier. Je n'aime pas renier. C'est pas que je n'aime pas renier. J'arrive à ne pas trop renier ce que j'ai fait.
Même si vous êtes dans une quête qui a jamais perdu, dans tous les cas, ce que vous avez enregistré ne sera jamais obsolète.
Pour moi, non, mais je peux toujours dire ça, je jouais telle œuvre comme cela il y a 15 ans, maintenant je l'ai enseigné beaucoup, j'ai réfléchi beaucoup, et puis on évolue nous-mêmes en fait, ce qu'on aime, les aspects qu'on met en valeur, oui, bien sûr.
Alors au-delà de ces délais d'incubation d'une œuvre, qui sont chez vous quand même particulièrement lents par rapport aux autres, vous avez aussi une autre particularité, c'est qu'on est aujourd'hui soumis à une surenchère médiatique, où les artistes veulent à tout prix être mis au devant de la scène, quitte à jouer dans des grandes surfaces, à jouer à des enterrements de stars médiatisées à outrance. Mais vous, vous vous cachez aussi.
Je ne fais pas exprès de me cacher. Ça m'intéresse moyennement, en fait, cette médiatisation. Moi, j'aime bien faire... J'ai la chance d'avoir beaucoup enregistré. Si j'ai des échos, je ne parle pas nécessairement dans la presse, mais si je sais que mes disques sont écoutés, aimés, si je suis content, ça me suffit beaucoup, en fait. Ça ne fait rien s'il y a des millions de pianistes qui vont encore, peut-être, un jour découvrir ce que j'ai fait. Il y a deux philosophies dans la vie. Ou on est toujours, on veut plus, c'est-à-dire on passe notre temps à être malheureux de ce qu'on n'a pas. Moi, je n'ai pas fait exprès, mais je suis heureux de ce que j'ai et de ce que j'ai eu. Quand il y a, je suis très content. Mais je ne vais pas, si on me propose un concert demain, je ne vais pas passer une semaine à me dire « Oui, mais je n'ai pas eu tel autre concert. Je suis content de ce que j'ai. » Et c'est difficile, c'est malheureux d'être différent, je pense, non ?
J'ai sous les yeux un disque de Déodat de Sévrac. Je m'aperçois qu'il est mort en 1921.
Oui.
Et je crois que c'est l'année de la disparition de Camille Saint-Saëns. Et alors pourquoi tout pour Camille et rien pour Déodat ?
Parce qu'il a mal choisi son pays. Vous savez où je célèbre Sévrac, où j'aurais dû célébrer Sévrac s'il n'y avait pas la pandémie ? À Musashino Hall, à Tokyo, en novembre, eh ben, ces jours-ci, j'avais un concert autour de Sévrac, pour célébrer Sévrac, parce que l'association des amoureux de Sévrac au Japon est extrêmement active, mais c'est au Japon. Ils publient des partitions de Sévrac, ce que la France n'a pas fait depuis les premières éditions qui datent de 110 ans. Tous mes élèves revenu là-bas, et c'est pas du tout à cause de moi, en fait. Tous mes élèves m'envoient des enregistrements de Sévrac pour que je les écoute, ils les jouent, ils connaissent Sévrac mieux que... Il y a des éditions nouvelles, avec des marques de pédalisation, des doigtés, mais au Japon, oui.
J'ai une citation d'Aldo Ciccolini. Avec Debussy et Ravel, Déodat de Sévrac se présentait comme la troisième voix de la musique française, mais dit il n'a pas voulu assumer cette responsabilité. Est-ce que ça peut signifier qu'entre Debussy et Ravel, de Sévrac aurait eu mérité une reconnaissance équivalente. Et que veut dire Aldo Ciccolini quand il dit qu'il n'a pas voulu assumer cette responsabilité ?
J'ai lu beaucoup que Baigneuse au soleil de Sévrac était à une époque aussi jouée que Jeu d'eau de Ravel et L'île joyeuse de Debussy. J'aime beaucoup Sévrac, mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'il aurait pu être le troisième avec Debussy et Fauré. Mais je ne lui enlève rien en disant cette chose.
Parce que finalement, est-ce que, par rapport à Debussy Ravel, qui sont des compositeurs français, est-ce que finalement le seul souci de Sévrac, c'est de ne pas avoir méditerranisé sa musique ? Parce que c'est quand même un compositeur régional.
Oui, mais il détestait la vie à Paris. Il a fui Paris et sa mondanité pour finir dans sa Catalogne natale, à Céret, en fait. C'est pas là qu'il est né, mais c'est là, il a choisi là, en fait, dans les Pyrénées de l'Est, sur la Méditerranée.
Oui.
Voilà. Et d'un côté, ça ne lui allait pas, cette vie un peu sociale et mondaine qu'un compositeur très connu doit avoir, mais aussi, et encore une fois, il n'y a pas honte à ça, il n'a pas le même génie que Debussy et Ravel.
On est aussi... Par rapport à Déodat de Sévrac, on peut dire que c'est le chantre du Languedoc. À l'époque, il était très ami avec Joseph Canteloube, l'Auvergnat,
oui.
Un autre musicien régional. On avait Vincent Dindy dans le Vivarais. Alors, ces musiques racinaires, ces musiques de région, est-ce qu'elles n'ont pas disparu aujourd'hui ?
Oui, mais ce n'est pas ça la raison, en fait. Debussy et Ravel auraient pu être compositeurs régionaux comme Bartók, qui est le plus grand compositeur hongrois, mais qui, pour moi, est un des cinq plus grands noms, sans doute, au XXe siècle, était. On ne peut pas plus faire appel à la musique du terroir, des pays, des peuples, des paysans. Mais ce n'est pas cela la raison. La raison, c'est aussi que l'importance et le génie de Debussy et Ravel, et Sévrac ne m'en voudra absolument pas en disant ça, était autre que celle de Sévrac, en fait. Je vais faire une autre comparaison. Et c'est vrai que je m'identifie beaucoup avec chose que je vais raconter, et un compositeur également lié au terroir, au peuple, à la nature, mais beaucoup plus nordique, c'est Grieg. Ce merveilleux musicien a dit, en toute modestie, c'est dommage parce que j'aurais adoré avoir dit cette phrase, qu'il n'écrit pas, ces édifices ne sont pas des cathédrales, des grands monuments, des choses somptueuses comme ça. C'est plutôt des maisons, petites maisons, où les gens peuvent se sentir sereins et heureux.
Vladimir Jankélévitch faisait une... Évidemment, quand on parle de la musique française, on est obligé un peu de passer par lui.
Mais c'est Vrac, surtout, oui.
Et il a beaucoup défendu. Alors, il comparait un peu Claude Debussy et Déodat de Sévrac. Il disait que de Sévrac, c'était une eau incarnée, un peu solide. Et Debussy, c'était de l'écume, de l'éclaboussure. Et il disait que peut-être ce qui avait fait la différence pour l'histoire, c'est que l'eau de Sévrac est horizontale et l'eau de Debussy est verticale.
Oui, mais aussi l'attachement. En fait, les deux musiciens sont chacun à sa façon, des musiciens entre guillemets impressionnistes. Il y a l'impressionniste nordique avec ses vapeurs et ce côté un peu vague et où vous avez remarqué combien la présence de l'homme n'existe pas chez Debussy. Il y a des vents et des cathédrales et des ruisseaux et des cloches et des feuilles, tandis que Sévrac, pas seulement on sent le peuple, il y a une pièce qu'on m'a demandé pour l'année prochaine au Japon de reprendre. Ça fait 20 ans que je n'ai pas mis les doigts sur cette pièce qui s'appelle « Sous les lauriers roses ». Et en plein pièce, il y a des indications de Sévrac. Voilà la naïade, voilà le gendarme. Voilà, il est proche des hommes, il est proche du peuple en fait. Et ça donne une solidité plus... moins vaporeuse, en fait. Plus
laborieuse.
Oui, ancrée dans la nature et les travaux des hommes. Et la musique de Sévrac est comme ça. Mais jamais je n'aurais pensé Sévrac aurait dû être un autre Debussy. Comment ça se fait que non, il n'aurait pas dû être. Il n'aurait pas pu être. Il n'aurait pas voulu être. Le génie de Debussy et Ravel doit éclabousser n'importe qui.
Donc,
sur son chemin.
Le problème initial, par exemple avec des pianistes comme Ciccolini, c'est d'avoir voulu comparer de Sévrac avec Ravel et Debussy.
Non, on peut comparer, mais on ne dit pas « Voilà le troisième génie méconnu, Sévrac qui est resté sur le carreau. » On ne dira pas. Mais même lui ne le dira pas.
D'ailleurs, il y avait une pianiste corésienne, Blanche Selva,
oui,
qui a créé la sonate pour violoncelle et piano d'Albéric Magnard en 1911, et qui disait à propos de Sévrac, « Sa musique reflète la vie d'un pays, la vie de la campagne, la vie de la terre. Pour comprendre de Sévrac, il faut aimer et connaître le midi de la France. »
Exactement, parfait, parfait. Parfait.
Alors, vous parliez de Baigneuse au soleil. Au départ, je crois qu'il y avait 6 pièces pittoresques. C'est vrai qu'il a extrait Baigneuse au soleil pour l'isoler et pour garder que 5 pièces. Au départ, Baigneuse au soleil faisait partie...
Dans Cerdania.
Oui. Et vous avez enregistré donc Cerdania et le retour des muletiers. Et je vous propose que nous écoutions cette pièce pittoresque maintenant.
Thank you.
Le retour des muletiers, quelques observations sur cette...
Oui, une pièce que souvent des pianistes séparaient de la suite Cerdagna, parce qu'on précise en fait que c'est le final brillant de cette suite de plus d'une demi-heure et qui finit vraiment magnifiquement bien ce cahier. Et souvent, je la couple avec la pièce qui avant, puisqu'elle parle également des muletiers, les muletiers devant le liste de le Christ de Libya. Cerdagna est peut-être des trois grandes suites de Sévrac, c'est celle que j'aime le plus en fait, par rapport au Chant de la Terre et même en Languedoc. C'est Cerdagna qui me parle le plus, en fait. C'est vraiment la perfection de l'art de Sévrac et plutôt dans ce cahier-là, avec Baigneuse au soleil, bien sûr.
Alors, vous avez refusé ma tentative laborieuse d'intégrer Déodat de Sévrac entre Ravel et Debussy. Alors, j'ai une sorte de confession de Joseph Canteloube qui parle à propos de Déodat de Sévrac. Alors, il dit, voilà, il y a une clarté de forme, une sobriété de moyens, une sincérité d'expression, il y a de l'esprit, il y a l'intensité des coloris. Ces qualités font de lui le vrai continuateur de Lully, Rameau et Couperin. Est-ce que ça correspond un peu plus? Ou est-ce que là encore, on est un peu dans la reconnaissance amicale, un petit peu l'inflation du devoir envers les gens qu'on aime?
Non, mais même dire qu'il est dans la continuation n'en fait pas... Si Debussy et Ravel n'ont jamais existé, Sévrac n'aurait pas causé à lui seul que la musique française devienne une des 4 ou 5 plus grandes musiques du XXe siècle. Mais si Debussy n'existait pas, si. Si Ravel n'existait pas, bien sûr aussi. Si je dis qu'il y a des limitations, même dans la musique de Sévrac, vous allez le prendre comme une réserve. Pas du tout, en fait.
Non, parce qu'en fait, il y a quand même eu une époque où on cherchait à inscrire Déodat de Sévrac dans un courant historique par rapport aux autres. Et je crois que c'est ça, le positionnement de Ciccolini, de Joseph Canteloube, de tous ces personnages, c'est d'essayer d'intégrer, à un moment donné, un statut par rapport aux autres.
Le mieux, c'est de dire qu'il n'y avait pas que Debussy et Ravel. Il y avait de très grands compositeurs comme Sévrac. Mais sans dire ni un génie comme eux, ni un compositeur marginal, mais son œuvre compte, mais... Vous savez une chose, c'est un miracle qu'on a 3 heures de piano. Vous oubliez quelque chose. Sévrac n'a rien écrit. Enfin, je m'explique.
Oui, oui, oui.
Il a 3 heures pour piano, quelques mélodies, un opéra, mais il n'a rien écrit en fait. Tous ses écrits sont des improvisations qui étaient aussitôt improvisées, aussitôt oubliées. C'est important de se dire que si vous mettez l'intégrale de Debussy dans ce que ça a compté, même l'intégrale Ravel, qui est toute petite, mais qui prend quand même, je ne sais pas moi, 8 ou 10 heures, c'est beaucoup plus que Sévrac, en fait. C'est comme quelqu'un qui écrivait en marge de quoi? De la vie.
Donc finalement, pour comparer la quantité d'œuvres par rapport à l'intégrale de Sévrac, il faut passer sur Boulez directement.
Non, je parlais des... Arrêtons là.
Non, parce que, comme on parlait de Joseph Canteloube, on parle évidemment d'Albéric Magnard. Je repars vers le professeur Magnard parce que j'écoutais Michel Onfray il y a peu de temps sur CNews qui faisait la propagande sur la musique de Pierre Boulez et qui disait que ses deux autres compositeurs préférés étaient Paul Le Flem et Vincent Dindy.
Boulez, Le Flem et Dindy.
Oui. Genre, est-ce que c'est quelque chose qu'il a répété, qu'il a entendu? J'ai du mal à comprendre sur le plan organique.
Ce n'est pas compréhensible.
Oui.
Cherchez pas.
Voilà. Non, c'est pour ça. Non,
mais il aime ces trois, c'est tout. Bon. Pourquoi pas? Mais heureusement que Boulez ne l'a pas entendu dire ça.
Alors, est-ce qu'on peut parler d'une tranquille audace dans la musique de Sévrac?
Oui, tranquille, c'est important. Parce que c'est comme quelqu'un qui écrit, sachant très bien qu'il a l'envie de révolutionner quoi que ce soit, ni il écrit comme quelqu'un qui fait quelque chose en plus de vivre.
Pas de frénésie? Pas de convulsion.
D'abord, c'est une musique heureuse. Très, très heureuse. En fait, quelque chose que d'autres très grands génies n'ont pas, c'est ce que je vais dire maintenant, c'est que Sévrac est une musique extrêmement bienfaisante. Bienfaisante, elle est saine.
Elle est saine, oui.
Elle est saine et ça rend quelqu'un heureux. Après, quand on travaille et quand on joue et quand on écoute et quand on enseigne et quand on fréquente Sévrac, on est réconcilié avec les hommes.
Mais donc, elle ne cherche pas l'inattendu?
Non, elle a son langage à elle, quand même. Elle n'imite personne. C'est quand même une voix très personnelle, pas révolutionnaire pour un sou, novatrice parce que n'importe quoi de personnel est novateur, mais pas plus que ça. Et puis, en fait, ce qu'elle n'a pas de Debussy, elle n'a pas cette inventivité invraisemblable de Debussy. Mais vraiment excessif, que tout le monde nous envie. Elle n'a pas le sens tellement aigu, juste, aigu surtout, d'un Ravel. Le pointu, mais qui sonne absolument magnifiquement, vraiment un génie.
Alors peut-être que ce qui touche, c'est comme chez Albéric Magnard. C'est ce côté artisanal de la musique.
Oui, c'est proche de nous, en fait.
Voilà, les artisans, oui, les artisans de la musique,
bien sûr.
Avec des défauts. On sent la transpiration, on sent que l'écriture n'est pas venue facilement.
Oui, mais chez Sévrac, on a l'impression que c'est d'une très jolie facture, quand même. Il n'y a pas de défaut véritable. Il y a des gens qui n'aiment pas, c'est tout, parce que j'ai entendu des gens, à chaque fois qu'ils vont entendre un morceau, ils vont voir si c'est aussi fabriqué qu'une sonate de Beethoven. Qui n'est pas du tout une critère pour moi. Mais du coup, ils mettent Sévrac dans un tiroir à côté.
Oui, vous avez des problèmes avec les sonates de Beethoven?
Non. Je veux dire, je prends quelque chose de très admis comme une construction parfaite. Je n'ai pas un problème. Les sonates de Beethoven, c'est quelques sonates de Beethoven qui ont un problème avec moi.
Oui, c'est une pirouette. les naïades et le faune.
C'est la petite sœur des baigneuses au soleil.
Mais ça a été découverte tardivement, parce que c'est sa fille qui a trouvé ça dans un grenier, je crois.
Ça a été publié 30 ans après la mort de Sévrac.
En 1952.
Magnifique pièce. En fait, c'est la pièce qu'on a citée beaucoup, parce que ce qui était le plus connu de Sévrac, c'est baigneuses au soleil. Baigneuses naïades, bon, le même mot. Les naïades et le faune indiscret, c'est le côté lunaire qui fait pendant au côté ultra-solaire de baigneuses au soleil.
Le faune, c'est un clin d'œil à Mallarmé?
Je ne sais pas, non.
Parce que j'ai cru entendre que c'était lié aussi à la ville de Valvin, où Mallarmé venait régulièrement, et où de Sévrac allait en vacances.
Oui, ben, vous m'apprenez quelque chose.
Et donc, ça aurait été un petit clin d'œil à Stéphane Mallarmé.
Mais ce sont deux pièces, en fait, écrites quasiment la même année, et avec la même un peu liberté de ton, la même longueur, le sous-titre des naïades, c'est « Danse nocturne », qui ne pouvait pas être le cas de « Baigneuse au soleil », qui est, pas le soleil, mais le soleil dans le sud, en plein mois d'août, à midi. Ça, c'est « Baigneuse au soleil ». Ça éclabousse de lumière. Et c'est magnifique comme pièce. Et les naïades, également, mais « Naïade » est beaucoup plus indolente comme pièce. On a l'impression qu'elle est moins de fermeté dans la forme. Magnifique pièce, magnifique pièce.
Alors, Billy, Eddie, je propose que nous quittions avec cette pièce.
Avec plaisir.
Et nous nous retrouverons prochainement pour une nouvelle émission dans Isère Classique, consacrée à Gabriel Fauré.
Avec plaisir.
Et peut-être Alexandre Scriabine.
Ouais.
Au revoir, merci.
Au revoir, merci à vous.